Et salut à tous, bienvenue sur MX Réflexion Live pour le show numéro 213. Ça enchaîne en ce moment les lives chaque semaine. On pourrait croire que c'est la saison off, mais pas du tout, pas du tout. Bien au contraire, d'ailleurs, ce matin, la planète Facebook a complètement explosé. Réveil 6h30 avec un petit post de David Villemain qui a retourné la planète motocross, tout simplement. Donc c'était plutôt cool. Si jamais vous étiez dans une cave aujourd'hui, que vous n'avez pas vu ça, ben rendez-vous sur Facebook de David Villemain ou sur nos réels interviews sur Instagram. On a fait pas mal d'interviews sur le Supercross de Paris, donc vous pouvez retrouver tout ça et comprendre de ce dont David voulait parler. Voilà, petit débat avec JMB. C'est ce qui a été vraiment la news numéro 1 du jour. Sinon, voilà, tout va bien. On est en live avec un nouvel invité. Ça fait super plaisir de se retrouver. On enchaîne les semaines où il y a beaucoup, beaucoup de travail. On a terminé le Supercross de Paris, c'est derrière nous. On a sorti une vidéo, on a sorti beaucoup d'interviews aussi, comme je le disais tout à l'heure. Allez checker ça, pour ceux qui ne les ont pas vus, on a beaucoup, beaucoup de bons retours. Ça fait plaisir, autant sur le contenu, un petit peu comme d'habitude, mais sur la qualité aussi des vidéos. Et ça fait plaisir, puisque ce sont nos apprentis qui montent maintenant les vidéos, donc on voit qu'on les a bien formés. Et ça nous fait plaisir, ça nous fait autant plaisir à nous qu'à elles, puisque ce sont des filles, ce sont des jeunes filles qui montent ça pour nous, jeunes, plus jeunes que nous en tout cas, plus jeunes que surtout que ce bon vieux Blaise Abadie. Mais bon, en tout cas, ils ont besoin d'hommes d'expérience pour les former, ça c'est clair. J'avais ma transition toute prête pour faire la pub parce qu'on a, vous le savez, depuis quelques temps, nos lives sont sponsorisés par MXR Communication, les spécialistes de la com BTP. Je devais partir faire une vidéo pour un chantier nocturne dans le Tarn. Malheureusement, avec les conditions météo, mais je ne pourrais pas. Donc, du coup, j'enchaîne tout de suite avec ce qui va se passer demain. C'est qu'on repart à Paris. Ce coup-ci, ce n'est pas pour de la moto, c'est pour un séminaire. Et je ne sais pas du tout dans quoi mon associé m'embarque, mais en tout cas, je sais que je pars jusqu'à lundi à Paris avec tout mon matos vidéo. Et il va falloir que je filme. Mais maintenant, je laisse le fautif expliquer pourquoi on va à Paris. Comment ça va, Blaise?
Ça va très bien, merci. Content de retrouver tout le monde. On va parler après ça de motocross, de supercross. Comme tu l'as dit, des grosses semaines pour notre invité, des grosses semaines pour nous. Donc ça fait de nous trois des hommes pressés. Et c'est une bonne chose. Ouais, de même, effectivement, on part à Paris, séminaire. Et c'est pour présenter notre autre activité. C'est pour ma partie formation. Donc je vais intervenir devant normalement 650, 700 personnes. Euh,
Yeah, tu
donc
auras des guillemets dans
bon.
le ventre là.
C'est bon, après, on a fait des départs de motocross, on a fait. Donc, bon, ça sera pas pire que ça. Hein. On va se débrouiller, on va faire en sorte que ça se passe bien.
T'as
Mais
gagné
voilà, on va
Beauville, le
parler
Supercross de Beauville. Ah non, pardon, t'as jamais gagné le Supercross de Beauville. Pardon,
un
continue.
T'es trop malade, tu vois. Mais j'ai quand même gagné
Allez.
la course relais du Kenny Festival avec notre invité. Donc, ça, c'est
C'est
resté
vrai,
maintenant.
je déteste parler de ça, mais c'est vrai que.
Je pense même que Jean-Luc Fouché s'en rappelle, que Xavier Bogue s'en rappelle, que l'équipe Outrider. J'ai mis le t-shirt exprès parce qu'on a terminé quand même devant l'équipe Outrider. Donc voilà. Mais bon, allez, trêve de plaisanterie. On a un invité ce soir qui est polyvalent et on va justement parler un petit peu de tout ça, de ses bons résultats. Et comme d'habitude, au tout début du live, on fait une liste de questions pour ceux qui connaissent pas notre invité. Donc Anthony, est-ce que tu peux te présenter avec ton nom, prénom et ton âge, s'il te plaît?
Bonsoir à tous déjà. Donc moi c'est Anthony Bourdon et j'ai 25 ans.
T'es tout
Lieu
jeune.
de naissance.
Je suis né à Agen, dans le Lot-et-Garonne.
Ta profession actuelle.
Sportif de haut niveau.
Situation familiale.
Alors je suis en couple depuis
Ouh, te
2 ans
trompe pas.
maintenant.
Là, tu t'embarques dans une question un peu
Un
trop
peu plus de
précise.
2 ans, oui. Un peu plus de 2 ans.
Depuis quelque temps, tu peux dire ça. C'est plus simple. Oui.
Voilà, un peu.
Les revenus annuels.
Les revenus, ça dépend des périodes, de l'année, comme ça varie beaucoup en fonction des résultats, nous. C'est jamais, on n'a pas vraiment de fixe à l'année. Ça varie pas mal.
Tout est basé sur les arrivées par rapport au team ou par rapport aux arrivées de Supercross, des primes de Supercross. C'est plutôt
C'est un tout, c'est
tout.
tout cumulé, ça fait ouais, les primes d'arrivée des organisateurs, puis plus du team. Après, j'ai un petit fixe à l'année avec mes partenaires comme Bud ou enfin mon team ou DSN par exemple. Mais ce qui me fait vivre, ouais, c'est surtout les primes d'arrivée et mes résultats, quoi.
D'accord.
Allez, dernière question pour clôturer le pédigré de notre invité. Combien de temps tu passes sur ton téléphone chaque jour?
Exactement, je sais pas, mais beaucoup de temps, beaucoup trop de temps, je pense. C'est vrai que j'avais regardé, là, on peut le voir dans les réglages. En moyenne, je dirais 5-6 heures au moins par jour.
Ouais, t'as la moyenne haute, quoi.
Ouais, je pense que je passe beaucoup de temps. Ouais, j'aime bien un peu comme tout le monde regarder les réseaux sociaux et tout, mais c'est vrai que je passe pas mal de temps et peut-être un peu trop sur le téléphone.
Et toi, réseaux sociaux, t'es plus, tu sais, en mode créateur ou en mode spectateur?
Plus en mode spectateur.
Spectateur, tu mets moins de contenu.
Ouais, c'est vrai que j'adore regarder sur les réseaux sociaux toute l'actualité, tout ce qui se passe, les stories, toute l'actualité, quoi. Mais c'est vrai que poster et tout ça, c'est vrai que c'est pas trop mon domaine. Et je le fais parce que je dois le faire et j'en ai besoin pour les partenaires, pour les sponsors, tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas trop mon fort de poster.
Et d'ailleurs, ça c'est demandé par le team ou d'autres partenaires, par exemple, de poster régulièrement, d'avoir une activité sur les réseaux ou pas du tout.
J'ai pas d'obligation vraiment, mais oui, forcément, je me dois de publier quand même pour représenter le team, tous les partenaires du team et tout. Donc, forcément, je suis obligé d'avoir un compte Instagram, Facebook, tout ça, mais j'ai pas vraiment d'obligation de publier tant de posts à la semaine ou tant pour moi.
D'accord.
Et quand tu postes, tu lis les commentaires un petit peu en dessous de ce qui se passe un peu, tu vois, quand tu poses des actualités, des trucs comme ça, ou tu fais pas trop attention.
Si, je lis quand même.
Ouais.
En général, je lis, ouais.
Ça t'affecte ou peu importe en fait. C'est vrai que des fois, tu sais, les réseaux sociaux, bon après t'as grandi avec ça, toi. Mais des fois, on peut se dire, c'est quand même agressif la réponse de certains gars. Des fois, tu peux avoir tendance à le prendre pour toi, quoi. Est-ce que ça t'arrive, ça, des fois, de te dire, ah merde, là, quand même, ça m'a piqué au vif.
Non, pas forcément dans ce sens-là. Ça me, y a pas beaucoup de commentaires. Enfin, du moins pour mes posts que je mets ou quoi, j'ai pas beaucoup de commentaires négatifs. Ça me touche quand j'ai les félicitations, tout ça.
Ouais, dans le bon sens, quoi.
Ouais, dans le bon sens, ça fait chaud au cœur d'avoir des commentaires comme ça. Mais dans le négatif, non, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Et puis voilà.
Bon, on sait que là, on l'a dans les commentaires, hein, tu as eu quelques félicitations pour ton résultat au Supercross de Paris, où tu as super bien roulé. Et justement, dans ce Supercross de Paris, toi, tu l'as ressenti comment l'après-course? Parce que si je ne me trompe pas, c'est une des courses où tu as eu les meilleurs résultats, on va dire, avec un bon niveau comme ça, c'est ça?
Ouais, c'est clair. J'ai déjà obtenu quand même pas mal de bons résultats, mais c'est vrai que je pense que c'est un de mes meilleurs résultats à Paris. J'ai fait le Supercross de Paris, je l'ai fait quand même plusieurs fois. Ça doit faire. J'ai commencé, j'ai fait une année au POPB à Paris-Bercy, la toute dernière année qu'ils l'ont fait. C'est une des premières fois que j'ai roulé à Paris. Et après, j'ai été à Lille, j'ai été à l'U-Arena. Et c'est clair que c'est mon meilleur pari que j'ai fait depuis que je roule à Paris et sûrement un de mes meilleurs résultats depuis que je fais de la moto, quoi.
Ça, tu l'avais
Préparé comment, ce Supercross de Paris, par rapport au précédent, vu que tu avais déjà participé plusieurs fois? Il y a quelque chose qui a changé pour aborder cette course?
Dans la préparation, pas plus que ça. Après, forcément, je commence à avoir un peu d'expérience. Je l'aborde peut-être avec un peu moins de pression. Et ouais, c'est ce qui fait que peut-être je roule plus relâché et à mon niveau. Et puis j'ai évolué depuis toutes ces années. Donc voilà, non, pas de préparation particulière cette année. Cette année, j'ai roulé en 2,5, alors que d'habitude, ça fait 3 ou 4 ans que maintenant je roule en 4,5 en France. Donc ouais, c'est vrai que bah, au niveau de ça, la préparation, c'est ce qui a un peu changé cette année parce que je suis monté sur la 2,5. Mais sinon, voilà, la préparation, je l'ai pris comme une autre course. Et voilà.
C'est ce que j'allais te dire. Tu penses pas que le fait de rouler plusieurs, on va dire plusieurs années même, en 4,50 et de redescendre en 2,5, Tu penses pas que ça t'a fait du bien?
Si, même là, de rouler en 2,5, ça me fait du bien aussi pour la 4,5. Après, forcément, ça me donne un peu plus d'agressivité, pardon, ce qui est mon point un peu faible. J'ai toujours manqué un peu d'agressivité. Et c'est vrai que rouler en 2,5, ça fait pas de mal, hein. J'avais fait même cet été, on a eu la première course du World Supercross à Birmingham. J'avais fait un mois de 2,5. Je suis allé à la première du SX Tour sans avoir touché la 4,5 quasiment. Et à Clermont-Ferrand, j'ai fait une de mes plus belles courses de l'été aussi où j'ai fait toute la manche devant Josh Hill. Et je gagne, je fais devant tous les Français au SX Tour en SX1. Donc forcément, de faire de la 2,5, ouais, ça m'aide aussi en 4,5 et l'inverse.
T'es un pilote ultra polyvalent, on va en parler un petit peu après parce que tu as touché un petit peu à tout en matière de moto tout terrain. Quand tu changes de moto comme ça, le fait que tu sois polyvalent, est-ce que ça t'aide? Est-ce que tu es à l'aise de suite sur une nouvelle moto? Est-ce que tu es pointilleux sur les réglages? Comment ça se passe pour toi?
Ben, je t'avoue que là, remonter sur la 2,5, quand Steph, je sais pas, là, il m'a proposé de rouler en 2,5 cette année pour le World, parce qu'à la base, c'est pour ça aussi que j'ai fait Paris en 2,5 pour rester sur la 2,5 pour le World la semaine d'après en Australie. J'étais un peu réticent parce que je suis plus un pilote 4,5 normalement, puis je suis pas un poids hyper léger aussi pour le 2,5. Et ça compte beaucoup la moto pour performer en 2,5, quoi. Autant en 4,5, il y a moins de différence parce que toutes les 4,5, ça marche, mais en 2,5, la moto, c'est quand même avoir une bonne moto, c'est important. Mais finalement, j'ai accepté et ça m'a fait, comme on l'a dit, c'était top pour moi parce que ça m'a fait du bien aussi pour le 4,5. Et voilà, après je m'adapte, c'est sûr que je m'adapte quand même assez rapidement. Il y a toujours un petit temps d'adaptation, mais que quand je me change de cylindrée, je m'adapte assez rapidement, donc c'est quand même cool.
Et je sais que chez Bud l'année dernière avec Quentin Prunière, bon, même historiquement, il y a Thierry Vandenbosch qui entraîne un petit peu les pilotes. Est-ce que il vient aussi t'aider, Thierry?
Pas plus que ça, Thierry, il est concentré sur les pilotes de l'Europe chez Bud. Il est tout le temps avec eux, que ce soit pour le physique ou le roulage. Et moi, je fais mon programme un peu à côté. Après, l'hiver dernier, bien sûr, quand je m'entraînais pour faire l'élite, par exemple, j'allais avec eux aux entraînements, je faisais l'entraînement avec eux. Je suis allé quelques fois à la salle aussi avec eux et tout ça. Mais je suis pas suivi autant que les pilotes que Bud ont pour faire l'Europe.
Et du coup, t'as pas d'entraîneur attitré, tu t'entraînes tout seul?
Moi, ouais, je m'entraîne tout seul. Là, tout l'été, par exemple, pour les Supercross, moi, je me fais mon petit programme avec l'expérience que j'ai. Je me fais mon petit programme et je m'entraîne pas mal avec Thomas Ramette, Hugo Manzato, par exemple. Où on s'entraîne en fait quand on roule ensemble, on se tire toujours. Donc voilà, mais après j'ai pas d'entraîneur titré, quoi.
T'es basé où toute l'année? T'es basé à côté du team, du côté de Magesque, ou t'es plutôt vers chez toi à Agen?
Non, maintenant je suis basé à Seignos à côté de Segor, à côté du team. Ouais.
Là, on a discuté justement avec Cédric Soubeyras au Supercross de Paris. Il disait que s'entraîner en Supercross, c'est pas évident. Et est-ce que toi, du coup, côté Seignos, ça va? Ça t'arrive à t'entraîner?
Ben, ça va parce que j'ai la chance que Bud, ils ont une piste pas très loin d'Hossegor. Donc, j'ai pu m'entraîner là tout l'été. Après, pour changer de piste, j'ai aussi ma piste à Agen, à côté d'Agen. On a quand même quelques pistes, deux, trois pistes. Hugo Manzato a sa piste aussi. Donc, on tourne un peu et heureusement qu'on a ces quelques pistes pour s'entraîner parce que c'est sûr qu'il n'y a pas de piste supercross publique. Donc, heureusement qu'on a quelques pistes privées pour s'entraîner. Et après, ce qui est difficile, c'est que là, quand on rentre dans la période hivernale un peu avec le temps, c'est vrai que c'est quand même compliqué pour s'entraîner en supercross. Et par exemple, avant Paris, j'ai dû aller en Espagne, chez Ander Valentine. Et donc voilà, ça m'a permis de rouler là-bas aussi. On n'est pas très loin de Hossegor. Moi, je ne suis pas très loin de la frontière espagnole. J'ai 1 heure et demie, 2 heures pour aller chez Ander Valentine. Donc je peux aller aussi m'entraîner là-bas. Ouais.
Tu penses que c'est plus simple de s'entraîner en supercross dans le sud-ouest ou dans le sud-est? Tu vois, on pense à Châteauneuf-les-Martigues ou voilà, Soube en gros, vers
Ouais.
là où est Soube, ou c'est plus simple vers chez nous dans le sud-ouest, malgré la météo.
Ben en soi, je dirais qu'on a quasiment autant de pistes. Mais ouais, ce qui rend les choses les plus faciles, c'est dans le sud-est, c'est qu'il pleut beaucoup moins. Donc ils peuvent s'entraîner là, tu vois, en décembre, en janvier, ils peuvent rouler quasiment tout le temps. Il pleut de temps en temps, mais pas autant que chez nous. Donc c'est sûr que pour s'entraîner, je pense que c'est peut-être mieux dans le sud-est. Ouais.
On reste sur le Supercross avant de basculer sur tout le reste. On a Jimmy qui demande, je relève un peu les questions, si tu as eu des propositions pour les US ou rien du tout, ou même des approches de team, voilà. Est-ce que tu as eu des propositions par rapport à ça?
Ben les US, ça fait déjà un petit moment que j'y travaille dessus. Déjà, l'an passé, je voulais y partir. Et puis, comme je changeais de marque, je passais chez Bud, Kawa voulait que je fasse le Touquet et tout ça. Ça s'est pas fait. Et là, cette année, ça fait quasiment 2 mois que je travaille sur le projet là, pour partir là-bas. Et normalement, je vais y partir. Pour l'instant, je ne sais pas trop si c'est avec Bud ou un autre team. Mais c'est sûr que j'y pars là dans quelques semaines. Mi-décembre, je pars aux US.
C'est une bonne
Ah, c'est
nouvelle, ça.
cool.
Donc je pense que tes résultats au Supercross de Paris ont peut-être dû accélérer le fait que tu puisses y aller.
Ouais, c'est sûr. J'étais déjà en contact avec quelques teams là-bas. Parce qu'à la base, je voulais faire la côte Est en Floride. Et j'étais en contact avec des teams là-bas. Puis finalement, la côte Est, ça va pas se faire. C'est un peu compliqué logistiquement. Ouais, je voulais faire la côte Est parce que aussi, je sais pas si vous avez vu, il y a un championnat en Inde qui s'est fait et les courses sont en janvier. Puis il y avait Dortmund et tout. C'est pour ça que j'avais prévu de faire l'Est. Finalement, l'Inde, on n'a pas trop de nouvelles. C'est un peu. Je pense que ça va se faire, mais bon, on est quand même à un mois de l'ouverture normalement, on n'a pas trop de nouvelles. Donc finalement, je pense que ouais, j'ai un peu laissé tomber ça. Et je pars faire. Je vais faire l'Ouest dans tout le championnat.
Du coup, tu t'orientes vers, on va dire, Supercross US et World Supercross. Ça serait ça la saison?
Ouais, c'est plus ça l'idée. Ouais, je me dirige plus pour faire. Quasiment du Supercross toute l'année. Après, j'ai toujours fait l'élite, le motocross. J'ai fait aussi du sable, comme vous le savez. Mais là où je me fais le plus plaisir et ce qui rapporte le plus aussi, c'est le Supercross. Et les US, c'est le rêve d'un peu tous les pilotes d'y aller. Donc je pense que c'est le bon moment. Et ouais, je me dirige plus vers. Vers que du supercross maintenant. Je vais laisser un peu tomber le sable pour quelque temps.
Ouais, là, a priori, vu ce que tu dis, c'est pas cet hiver qu'on va trop te croiser à Magesque avec les pneus sable, quoi.
Non, je pense pas.
Ni même dans les cailloux avec un pneu Michelin médium pour de
Non plus.
l'enduro, quoi.
Pas de.
On a pas mal de questions, hein, justement, sur ta polyvalence. On a une qui vient d'arriver de Nicolas, qui dit que tu es un pilote complet MX SX sable, mais toi, tu préfères quoi? Alors, sans parler de niveau professionnel ou d'argent, mais en plaisir pur, c'est laquelle des trois disciplines que tu préfères? Ou quatre même en ajoutant l'enduro, pardon. Il n'y a que MX, SX, sable et assis à l'enduro.
Je dirais que là, depuis cette année, même depuis l'an dernier, je me fais de plus en plus plaisir en supercross, ce qui était moins le cas avant parce que, après, j'aime bien sûr rouler que ce soit dans un MX ou dans le sable aussi. Je me régalais quand je faisais le sable et tout ça, mais là, ça fait 2 ans ouais, que. En supercross, je commence à vraiment prendre du plaisir et quand tu commences à rouler devant, forcément, tu prends encore plus de plaisir quand tu commences à gagner des courses et tout ça. Mais ouais, je dirais ma discipline préférée maintenant, c'est le supercross.
Je relève un autre commentaire du coup pour rebondir sur ça, de Manu Depeu qui nous dit que enfin, notre futur soub national, est-ce qu'une carrière à la soub, tu signerais direct toi? Ou est-ce que tu envisagerais, je sais pas, un autre type de carrière dans l'idéal?
Ouais, non, carrément, je m'entraîne pour devenir un peu comme Soub et pourquoi pas prendre sa place un jour parce que lui, c'est vrai que ça fait un moment qu'il est là. Comme Greg Aranda d'ailleurs, ou voilà, mais ouais, c'est l'idée, ouais, de me diriger plus une carrière comme ça, Supercross, comme a fait Soub, plutôt que MX ou faire des GP. Moi, à la base, quand j'étais plus jeune, c'était les GP qui me faisaient rêver, et je voulais vraiment faire ça plus jeune, et puis. Je sais pas si si je m'aurais fait au programme d'un pilote de MXGP, par exemple. C'est quand même différent. Je sais pas si j'étais prêt à faire tous les sacrifices pour rouler un MXGP. C'est quand même beaucoup beaucoup de sacrifices pour rouler en GP, alors qu'en Supercross c'est un peu plus simple, je dirais.
À quel niveau c'est plus simple selon toi? C'est par rapport à la charge d'entraînement sur la moto?
Ouais, je dirais que le Supercross, c'est quand même c'est plus fun, c'est plus c'est aussi des heures d'entraînement, mais c'est différent. Tu vois, les GP faut faire des heures dans le sable, aller à Lommel, s'entraîner sous la pluie.
Ça
C'est
fait
quand
moins
même autre chose.
rêver, ça c'est sûr.
Ouais, ça fait moins rêver, mais je sais pas si j'étais prêt à faire ça. Donc voilà, j'ai choisi plus cette direction, de faire le Supercross. Là maintenant, partir aux US et tout. Et je suis vraiment heureux de faire ça. Je suis heureux de faire ça. Donc voilà.
C'est vrai
J'ai une
qu'une
petite
une
question
carrière,
pour. Vas-y,
juste pour terminer par rapport à ça, une carrière à la Soubeiras, à Aranda, quand on regarde, quand on analyse d'un point de vue extérieur, alors j'ai l'impression en tout cas, ça sera à eux de nous le dire, ou même à toi Anthony, mais j'ai l'impression que c'est le type de carrière qui a le meilleur rapport, on va dire, investissement personnel par rapport au gain derrière, par rapport à quelqu'un qui va faire. Alors je ne parle pas des geysers, des Keroli, mais je parle de quelqu'un qui fait entre 10 et 15 en MXGP et un Soub, un Randa, peut-être qu'ils vont gagner peut-être la même chose sensiblement. Et par rapport à l'investissement personnel, comme tu dis, d'aller s'entraîner l'hiver, de s'entraîner très très dur, c'est peut-être plus, on va dire, même s'ils s'entraînent dur, hein, je n'enlève pas ça à ces pilotes-là, mais c'est dur dans un sens un peu plus fun quand même, comme tu dis.
Ouais, mais c'est clair, t'as complètement raison. Oui, c'est sûr que c'est totalement différent. Et ouais, t'as complètement raison.
Et en plus, c'est deux pilotes, hein, autant Soub que Aranda, qui ont réussi à perdurer dans le temps. Et c'est quand même assez rare. Il n'y en a pas eu beaucoup qui ont réussi à avoir une carrière de peut-être 10, 10, 12 ans. Je ne sais pas quel âge ils ont, mais je crois qu'ils ont 33 ans à peu près, vers là, autant Soub
Ouais,
que
c'est ça,
35 même,
les
ouais,
34.
35, 36. Hein.
35, ouais, donc ça fait un moment qu'ils sont là, ça fait un moment qu'on les voit sur les circuits. Et donc c'est bien, hein, tant mieux pour eux. Ouais. Mais on te souhaite de prendre leur place et de durer aussi longtemps.
Ouais, c'est clair. Après, le problème, c'est qu'il n'y a pas de jeunes non plus. C'est pour ça qu'ils sont toujours là. Il n'y a pas derrière, il n'y a pas grand monde. Donc
Tu
forcément,
crois
eux,
que
quand ils sont
c'est
devant.
ça? Tu crois, en fait, je me demande toujours, justement, en les voyant, toujours au bon niveau, je me demande si c'est eux qui arrivent à progresser d'année en année et à se mettre au niveau, ou si c'est les jeunes qui n'arrivent pas à se mettre à leur niveau. En fait, je pose toujours cette question avec eux.
Ben, je sais pas, c'est difficile à dire, mais je pense que ouais, le problème, c'est qu'il n'y a pas de jeunes, en fait. Ils n'ont pas Soub ou Aranda, ouais, ils progressent un petit peu, mais ils n'ont pas progressé en 10 ans, là, ils n'ont pas progressé. Enfin, si, il y a 10 ans, depuis il y a 10 ans, ils ont dû progresser un petit peu, mais là, ces 5 dernières années, ils ont pas. Je pense pas qu'ils aient progressé une évolution de fou. C'est juste qu'il n'y a pas. Il y a personne qui pour prendre leur place derrière eux. Il y a personne. On est là au SX Tour, on est un groupe. Il y a Thomas, Ahmed, Aranda, Soub devant, moi, et après derrière, il y a pas grand monde. Et même, il y a derrière, c'est encore des ils sont pas jeunes derrière non plus. Tu as des Lefrançois, Clermont, c'est pas des jeunes, tu vois. Donc il n'y a pas de jeunes pour prendre la place en fait. Il y a zéro jeune.
Ouais, mais il faudrait faire quoi du coup pour créer des jeunes comme toi? Toi, tu as été jeune quand même. Tu es encore jeune d'ailleurs pour les mettre dehors, les sous, Aranda, en espérant que ce soit toi. Mais ouais, il faudrait faire quoi pour booster ça justement?
Ben, je sais pas, c'est compliqué parce qu'ils ont quand même essayé en faisant un championnat junior, là, un petit championnat junior en 125-85. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de pilote, les jeunes, ils ne viennent pas. Même ceux qui roulent devant en cadet ou en junior, ils préfèrent se concentrer à faire peut-être l'Europe, tout ça, que venir faire un peu de supercross. Alors que je pense que c'est un tort quand on voit, on remonte un peu en arrière, tu prends les Ferrandis, les Marvin Musquin, tout ça, quand ils étaient jeunes, ils faisaient du SX aussi. Donc ils combinaient les deux, supercross, motocross. Et ça apporte, on le sait, enfin, c'est pas mauvais de faire du supercross, ça apporte pour le motocross. Et malheureusement, les jeunes là, ben, y en a, les jeunes de maintenant, il n'y en a aucun. J'en avais motivé quelques-uns, j'avais dit, venez, vous pouvez venir chez moi, s'entraîner, tout ça, vous roulez avec moi un peu. Mais non, ils préfèrent faire un peu plus le sable ou l'Europe.
Ah, peut-être que la carrière MXGP fait encore briller les yeux. Et ils se disent peut-être aussi que le supercross, c'est moins accessible d'un côté. Et que c'est. On en parlait aussi, que c'est plus difficile de s'entraîner en supercross. Plus facile de changer, de varier de terrain tous les week-ends sur les terrains qu'on retrouve dans chaque ligue, que de rouler en supercross sur des terrains variés. Si on n'a pas un ami qui a un terrain privé, c'est vrai que c'est très compliqué de s'entraîner. Ça peut venir de là aussi.
Ouais, mais comme je dis, c'est bien dommage parce qu'il y en a, si ils veulent vraiment en faire, on trouve toujours quand même, il y en a des terrains, quelques terrains privés, c'est sûr, c'est plus compliqué que le motocross parce qu'il n'y a pas de terrain ouvert au public en fait. Mais en cherchant un peu, c'est quand même un petit milieu et il y a toujours moyen de s'entraîner et de rouler en supercross quand même.
En plus, comme tu le dis, si on parle un peu aux jeunes, c'est vrai que ça se réfléchit parce que une carrière Europe MXGP, c'est hyper fermé en termes de ratio nombre de pilotes par rapport au nombre de places qu'on va trouver ou qui vont être rémunérées. Et sur le Supercross, vu qu'on a moins de pilotes, voilà, il faut s'entraîner aussi dur, mais il y a peut-être plus de chances de faire quelque chose quand on est au haut niveau, quoi.
Ouais, non, mais c'est sûr, mais ah, mais les jeunes, ils se rendent peut-être pas compte que ils peuvent avoir des portes ouvertes quand même aussi en supercross et ils sont focus sur le mondial, MXGP, tout ça. Même des jeunes comme tu vois, il y a Mathis Valin qui est chez Bud ou Benjamin Garib, le Chilien. Ils avaient l'opportunité de rouler un peu en supercross et tout, et ils préfèrent limite se concentrer à faire le motocross. Même si Mathis Valin, avec Valentin Tellier, il a quand même fait un peu de supercross, donc c'est bien. Mais là, même avec Bud, il avait l'opportunité, il préférait faire plus le motocross que le supercross et aller s'entraîner dans la boue plutôt que venir s'amuser un peu avec moi. Mais ouais, c'est dommage parce qu'il y a quand même. Il y a quand même quelque chose à faire en supercross et je pense plus que, comme tu dis, en MXGP où c'est quand même assez fermé. Et puis, ouais, quand tu vois, tu disais tout à l'heure, un Soubeyras ou un Randa, c'est sûr qu'il niveau financier, il gagne autant d'argent qu'un mec qui fait presque des top 10 en MXGP. Donc, ça, les
Ouais, puis
jeunes, peut-être qu'ils
il faut pas oublier que ces gars-là, ils ont été un petit peu aspirés par la génération Vuillemin, Tortelli, où ça roulait en supercross à l'époque. Et tu vois, Soubeyras, Aranda, pourquoi ils sont bons aujourd'hui? Peut-être que ça peut être une explication. Ils ont quand même roulé en supercross depuis leur plus jeune âge. Même quand ils faisaient du motocross et des saisons de motocross à côté dans des teams, ils ont toujours fait un petit peu de supercross à côté. Donc, si ouais, c'est pareil. Si on avait un conseil à donner aux jeunes, ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Il faut rouler en supercross, tout simplement.
Ouais, mais c'est clair. C'est clair. À l'époque, ça se faisait peut-être plus. Et moi, c'est vrai que j'ai attaqué aussi assez jeune le supercross pour m'amuser. J'ai attaqué, je devais avoir 13-14 ans quand j'ai commencé le 125. Donc, ça fait 10-12 ans que j'en fais déjà. Donc, c'est sûr que plus tu attaques jeune, et plus mieux c'est, quoi. En plus, c'est fun, quoi. Donc, c'est pour ça, je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de jeunes qui se penchent à faire du SX.
Si on continue juste sur le SX rapidement, quand tu vas partir aux US, tu penses que la moto a un gros rôle à jouer dans le résultat? Est-ce que tu l'as déjà senti toi au Supercross de Paris par rapport à Shimoda par exemple qui était là, à Tombial qui avait des motos peut-être, alors je ne sais pas les motos qu'ils avaient, si elles étaient préparées, si c'était les mêmes qu'aux US, s'ils avaient la même essence, ça j'en ai aucune idée. Mais est-ce que tu penses que la moto a un gros rôle à jouer sur les
Ouais.
résultats en Denis?
Ouais, la moto en 2,5, c'est hyper, hyper important. Je le vois parce que, par exemple, là à Paris, avec Ben, on a quand même bien travaillé sur la moto et j'avais vraiment une bonne moto. J'avais peut-être pas la moto, les motos comme eux, les motos d'usine, mais j'avais une moto qui s'en rapprochait. Et par exemple, au World Supercross, j'ai pas la même moto. J'ai une moto quasi d'origine au World et là j'ai vu la différence. À Paris, c'était quand même avoir une bonne moto, ça aide vachement. Donc c'est ce qui me faisait un peu peur aussi de partir aux US, et de rouler en 2,5 et d'avoir une trop grosse différence de moto. Parce que bien sûr, ouais, c'est quand même très très important en 2,5. Et finalement, quand j'ai vu la moto que j'avais à Paris et ce que je faisais par rapport aux autres qui ont les motos d'usine, je pense pas que c'était très ridicule et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec une moto comme j'avais à Paris, même aux US.
Là, justement, en négociation, tu aurais une moto avec un bon moteur et tu aurais une bonne moto aux US ou une moto qui se rapproche plutôt de l'origine?
Non, si j'y vais, j'aurai une pour les courses, j'aurai une bonne moto, une bonne
D'accord.
moto.
Bon, c'est la journée des experts. On a eu l'avis de JMB, de DV aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On avait oublié le troisième expert, Ludo Chaudron, qui commente, qui nous dit, je pense qu'il a fait sa meilleure saison justement parce qu'il a fait les trois disciplines cette année. Ça a été bénéfique et le résultat est là. Et il complète avec un deuxième commentaire. Pour moi, ce serait une grosse erreur de se consacrer uniquement au Supercross. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Anthony? Je pense que c'est pas la première saison où tu fais autant de disciplines. Bon, mis à part l'enduro, cette année où tu en as fait peut-être un peu plus que les années précédentes, mais tu as toujours été un pilote polyvalent qui touchait à toutes les disciplines.
D'ailleurs, juste pour compléter un petit peu ta question, Nico, est-ce qu'on te l'a pas reproché ça à une période de dire t'es un peu partout, mais si tu te concentrais peut-être sur une discipline, peut-être que t'aurais des meilleurs résultats. Est-ce qu'on te l'a pas on te l'a pas dit, tu l'as pas entendu ça?
Si, si, je l'ai entendu ça, que bah, de faire un peu tout, tu fais un peu tout et tu fais un peu tout moyen et t'es pas top dans une discipline. Mais je pense que c'est aussi ce qui m'a aidé à être là où je suis maintenant, de toucher un peu à tout, de faire du sable, du motocross, du supercross. Je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi à être au niveau que je suis actuellement. Et pour revenir à la question de Ludo, là je me consacre au Supercross, mais je n'abandonne pas non plus le motocross. Là, si je fais je vais faire les US. Dès que je rentre, si je peux, suivant les dates et tout, je viendrai faire un peu de l'élite. Ça m'empêchera pas de continuer à faire du motocross ou peut-être un peu de sable aussi à l'entraînement. Je vais pas faire seulement du Supercross toute l'année non plus.
Ouais, puis c'est un peu calqué à, je sais pas, un gars comme Roxen, par exemple. Un gars comme Roxen, il va rouler 75% de la saison, on va dire, ou 70% en supercross, mais il va faire 30% de motocross peut-être à l'entraînement pour garder le rythme, et après se consacrer qu'au supercross, et c'est pas pour ça qu'il sera ridicule sur les deux disciplines. Donc,
Ouais,
je
c'est
pense
clair.
pas que ce soit une grosse erreur de faire que du supercross, on va dire, en course, et après, à l'entraînement, de travailler sur le motocross.
Non, c'est sûr, il y en a plusieurs hein, qui font ça aux US. Tu regardes ben, Roxanne, comme tu l'as cité, il y a Dean Wilson qui fait aussi que du SX, il y a Stewart, Malcolm qui fait que du SX. Il y en a pas mal qui font. Il y en a de plus en plus d'ailleurs qui se dirigent vers SX only. Donc. Je pense pas que c'est une mauvaise chose et que ça me perturbera dans mes résultats en Supercross.
Allez, demi-heure de live franchie, encore de 5 minutes. Et la demi-heure de live, c'est normalement dédié aux commentaires Instagram que l'on a eu. On a eu pas mal de questions pour toi, Anthony. Ces commentaires Instagram, ils sont présentés par Blaise Abadi cette fois-ci, puisqu'on part à Paris pour de la formation. Accompagnement Calliope, c'est ça que tu nous fais, Blaise. C'est que tu, là, en ce moment, tu accompagnes pas mal de monde pour être agréé Calliope. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est?
Ouais, Calliope, c'est pour ceux qui veulent créer leur organisme de formation et être formateur. Donc voilà, Calliope, c'est ça. Ça sert à avoir les financements comme le CPF et tout ça. Donc faire des formations et avoir droit à ces financements parce que notre formation est qualitative avec cette certification.
Voilà. Et donc moi, j'accompagne. Ceux qui ont des écoles de pilotage, par exemple, qui sont coach, pourraient avoir leur école de pilotage certifiée Calliope.
Ouais, mais par exemple, David Frétinier est certifié Calliope. Donc lui, quand on fait un stage chez lui, par exemple, ça peut être remboursé par les fonds pro. Donc ça peut se faire, ouais, exactement. Donc ça peut être une bonne chose.
Allez, en parlant de stage, on a une première question pour toi, Anthony, de Benji sur Instagram, qui nous demande à quel âge tu as commencé le motocross.
J'ai commencé assez tôt, enfin, à monter sur une moto, une Piwi, tout petit, à l'âge de 3 ans. Après, j'ai suivi le cursus qu'un peu tous les jeunes ont fait, 50, 65, 85. Après, j'ai commencé assez tard par rapport à d'autres, le Championnat de France, tout ça. Par exemple, en 65, j'ai jamais fait de course du Championnat de France, alors qu'il y en a, ils ont fait le mini-vert, tout ça. Même au cadet, j'ai fait seulement 2 courses de cadet, jamais fait le cadet en entier. Et j'ai commencé plus en 125 à faire le 125 à l'âge de 12-13 ans.
Et, ah oui, t'étais grand. Je me souviens que c'est vrai que t'étais grand. T'es monté vite en junior, toi, au final.
Ouais, ouais, j'étais quand même assez grand sur le 85. Et même, j'étais passé, je crois, 12 ans sur le 125. Et je ne pouvais pas faire encore de course. Du coup, j'avais fait, je crois, la fin du junior parce que je n'avais pas pu faire le début ou un truc comme ça. Et ouais, j'ai commencé là à 13-14 ans à faire le championnat de France, un peu de supercross. Et c'est là que j'ai commencé un peu ouais, à me tenir comme il faut. Mais avant, ouais, c'était plus vraiment pour m'amuser. Je faisais la ligue, quoi. Voilà.
Ton père faisait de la moto, c'est comme ça que t'es tombé là-dedans?
Ouais, mon père faisait de la moto, ouais.
Il y a eu un moment où tu t'es dit, bon là, allez, j'arrête tout et je me consacre qu'à la moto, ou pas?
Ouais, je sais plus exactement à quel âge, mais c'est vrai que bah, les études, ça, j'étais pas trop dedans. Et c'était, ouais, à l'époque, je voulais absolument arrêter l'école pour faire de la moto, machin, et j'ai arrêté d'ailleurs après la troisième. Et donc voilà, c'est peut-être un tort. Si c'était à refaire, peut-être je continuerais peut-être un peu plus longtemps les études. Mais ouais, après la troisième, du coup, ouais, j'ai tout arrêté pour faire que de la moto.
Et du coup, on pose la question souvent aux pilotes qui sont assez jeunes, qui sortent du junior. Mais est-ce que toi, tu t'es déjà dit, ok, si ça marche pas, j'ai un plan B ou pas?
Plus jeune, je m'étais jamais trop posé la question. Après, maintenant, bah, j'y pense parce que quand j'aurai fini, il me reste encore quand même quelques belles années. Mais quand j'aurai fini, bah, j'y pense. Il faudra que je trouve quelque chose à faire. Et pourquoi pas faire des stages, être coach, entraîner d'autres pilotes. D'ailleurs, j'ai déjà passé mon CQP pour faire, par exemple, de l'initiation pour les jeunes. Mais ouais, je pense que plus tard, je ferai ça. Après, plus jeune, ouais, je me suis jamais posé la question, quand j'ai arrêté l'école, savoir ce que je faisais après, quoi.
Ah, Benjamin Ricard. Une suggestion de Benjamin, ouais. Qui me dit parieur sportif professionnel, peut-être.
Ouais, non, je ne sais pas si c'est la bonne voie.
C'est plus difficile de gagner de l'argent avec ça, ouais, ouais. Je pense. Ça ne va pas être évident. Ouais, du coup, sable, est-ce que ça t'est dirait, toi, un jour de faire le Touquet? Est-ce qu'un jour, tu aurais l'objectif de te consacrer comme Mikko Potisek, comme voilà, tout ce qu'on connaît, à se focaliser une saison complète sur le sable dans l'objectif de gagner le Touquet ou pas?
Ouais, bien sûr. J'ai toujours aimé le sable. J'en ai fait depuis que je suis tout petit. J'ai fait le Touquet, les courses juniors, j'ai gagné le Touquet jeune. J'ai déjà fait j'ai fait 3 Touquets chez les grands. Et j'en ai fini 2, j'ai cassé l'an dernier. Mais donc là, je mets un peu de côté le sable pour me consacrer plus au supercross. Mais c'est sûr que dans l'avenir, plus peut-être en fin de carrière ou quoi, j'aimerais ouais, y revenir et peut-être le faire vraiment correctement, me concentrer peut-être sur 2-3 saisons pour pourquoi pas aller gagner un Touquet ou quoi. Ouais.
Parce que là, en fait, les touquets que tu as fait jusqu'à maintenant, tu faisais à moitié sable, à moitié supercross, du coup.
Ben ouais, jusqu'à maintenant, je jonglais entre le sable et le supercross qui se finissait quand même assez tard. Ça se finit en décembre. En janvier, on a tout le temps Dortmund. Je roule en Allemagne en janvier. Et je n'étais pas pleinement concentré à faire le sable. Donc j'y allais un peu sur. Je m'entraînais. J'en ai passé des heures à m'entraîner dans le sable aussi. Mais je roulais un peu sur mes acquis et voilà, du coup, ouais, je me suis jamais vraiment concentré à faire tout un championnat et comme font les tops qui sont devant. Parce que pour rouler devant, je pense qu'il faut. C'est quand même beaucoup, beaucoup d'entraînement.
Tu l'as dit là, tu viens de le dire, tu as eu déjà de très beaux résultats dans le sable, dans d'autres disciplines, le supercross, il y a le supercross de Paris un petit peu plus récemment. Tu as fait quand même de beaucoup d'éclats dans ta carrière, même à l'Europe, en motocross. Mais il y a eu des hauts et des bas quand même dans ta carrière. Et en même temps que tu parlais là, je me rappelle de supercross de Paris où ça avait été un petit peu compliqué quand tu étais chez Honda SR. Est-ce que à des moments, tu t'es dit dans ta carrière, voilà, franchement, je vais arrêter, je vais essayer de trouver autre chose, ou jamais. Jamais tu as été dans cette mentalité-là, tu te dis non, mais tant pis, cette course s'est mal passée, je vais rebondir pour aller sur le sable, pour être meilleur en supercross. Est-ce que tu as Comment ça s'est passé dans ta tête quand tu as eu des contre-performances?
C'est vrai que ouais, c'est vrai que comme tu l'as dit, à Paris, il y a une année, ouais, ça s'est très mal passé avec Honda. Et c'est vrai que ouais, dans ces moments-là, ben, sur le moment, tu dis que tu as envie de tout bâcher, de s'arrêter. Mais bon, le lendemain, tu te reprends. Et justement, ben, ouais, c'est vrai que j'avais passé un week-end vraiment horrible là, cette année-là à Paris. Et ben, j'ai rebondi de suite. Paris, c'était ouais, en novembre. J'avais repris une husky en décembre et c'est là que j'ai gagné Dortmund, je crois, en janvier. Du coup, j'avais tout de suite rebondi. Mais du coup, ouais, voilà, je me suis jamais vraiment dit j'arrête tout au
Ouais,
point
ça
de.
dure une heure et après le lendemain, tu te réveilles et tu te dis, bon allez, je
Ouais,
repars au
voilà.
boulot.
Non, je me reprends vite. J'adore faire de la moto, donc je me vois pas arrêter la moto. Mais c'est sûr que dans ma jeune carrière, je veux dire, j'ai eu des hauts et des bas et un peu comme beaucoup de pilotes, hein, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des hauts et des bas.
On a parlé motocross, supercross, sable. T'as aussi participé aux France Enduro. On va en parler. Laisse-nous une heure de plus et nous, on t'envoie un super motard. Hein, je pense on te chauffe, on te fait faire
Bon,
le
Speedway, du côté d'Agen, il y a de quoi faire aussi.
ouais, plus.
Ouais.
Non, du coup, en enduro, tu peux nous expliquer mais comment ça s'est fait, cette partie enduro, cette saison, pourquoi ça s'est fait d'ailleurs?
Ben ouais, après je suis pas fermé à essayer d'autres disciplines. C'est pour ça que ben en fait l'enduro, ça s'est fait que du coup je suis passé Kawa. Il a fallu que je passe par un concessionnaire et Steph Dassé, il travaillait un peu avec DSN Moto. Moi je les connaissais pas du tout avant de travailler avec eux, et du coup je suis passé par eux. Et eux qui sont à bloc dans l'enduro, en fait, ils m'ont proposé, en échange de m'aider, ils m'ont proposé de faire quelques courses d'enduro dans la saison. Et bah, j'ai tout de suite accepté parce que moi, l'idée de découvrir une nouvelle discipline, ça ne me déplaisait pas. Donc, c'est pour ça que cette année, j'ai fait quelques enduros au Championnat de France et une classique aussi.
Et ça
Ouais,
t'a
c'est vrai
plu
que
du
là, on
coup?
parlait tout à l'heure du temps passé sur la moto, pour le coup, en enduro, c'est long. Il faut partir marcher, les spéciales, enfin, les semaines où tu es occupé, elles sont méga longues. Tu te verrais, toi, faire de l'enduro si, imaginons là, Paris, ça se passe mal, tu vois, là, tu nous aurais fait Paris comme celui où tu avais fait sur la Honda cette année. Est-ce que tu te serais dit, bon, allez, je pars à fond dans l'enduro, est-ce que c'est quelque chose que tu aurais pu envisager ça? Ouais, mais c'est marrant parce que justement, après ce pari là où ça s'était mal passé avec Honda, j'avais une proposition pour partir en enduro dans le team de Mathias Bellino qu'il avait avant. Et finalement, ça s'était pas fait. Et c'est pour ça, je suis pas fermé à découvrir de nouvelles disciplines. Mais c'est vrai que l'enduro, là, maintenant, après avoir essayé, c'est quand même une autre discipline. Et je sais pas si je serais capable de faire que de l'enduro sur toute une saison, parce que c'est quand même, comme tu dis, marcher toute la semaine, les courses, c'est quand même hyper long. Voilà, j'en ai fait deux,
T'as fait une Tour du
trois.
France compliquée en plus cette année où il y avait des liaisons où c'était limite de
Ouais,
l'extrême par endroit, non?
la dernière que j'ai fait là, c'était pas prévu en plus. C'était pas prévu. Et puis c'était en septembre après le Supercross de Brienon. Là, en septembre, j'avais pas de course de Supercross. Donc, comme DSN, il me voulait là sur une autre course, j'ai dit allez, pourquoi pas. Comme j'ai pas de course de Supercross, j'y suis allé. Et là, tout week-end, je me suis demandé qu'est-ce que je faisais là-bas. Parce que c'était vraiment, vraiment pour moi, même du coup, de ce que j'ai entendu des autres qui connaissent l'enduro, c'était quand même assez compliqué. Et c'est vrai que ce week-end, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai un peu galéré.
C'est le style de week-end vraiment usant. Pour moi, le
Ouais.
mot que j'ai en tête sur la moto quand tu fais ça, c'est usant. Ça
Ah
t'use, ça te ponce. Du jour où tu marches, où il pleut, jusqu'à que tu rentres chez toi, ça te ponce. Surtout quand tu viens d'une autre discipline comme motocross ou supercross, on n'est pas
ouais.
du tout habitué à ce genre d'effort hyper long où, même sur la moto, c'est long, c'est usant, fatigant, quoi.
Ouais, non, mais c'est clair, à la fin du week-end, t'es usé. C'est sûr qu'après une semaine de marche, parce que ouais, si tu veux faire les choses un peu correctement, il faut y arriver le mardi, marcher mercredi, jeudi, vendredi, plus les 2 jours de course. C'est sûr que le dimanche soir, t'es vraiment bien, bien usé, et encore plus quand c'est des week-ends. Là, tu vois, c'était pas la pluie, c'était une poussière de fou dans les spéciales. Les liaisons des cailloux du matin au soir dans les cailloux, en fait. Et c'est sûr que 8 heures dans les cailloux, on peut te dire que c'est long. C'est
Et
très, très
même
long.
mentalement, en fait, quand tu le dis, c'est vrai que je me remémore un petit peu deux, trois passages, mais même mentalement, c'est dur parce que pendant 7-8 heures, il faut rester concentré. Quand tu vas marcher les jours d'avant, il faut se mémoriser un petit peu tout. Il faut essayer d'avoir une technique pour mémoriser tout quand tu veux faire les choses bien et essayer de faire un chrono. Ouais, tout est usant et surtout, tout est différent parce que c'est une discipline à part. C'est comme si on passait, je sais pas moi, du marathon au triathlon, quoi, un peu. J'ai l'impression que c'est un peu la même différence.
Ouais, non, mais c'est clair. Après, bon, on parle de cette course qui était compliquée. J'ai fait les deux premières, là, Saint-Palais et Saint-Jean. Et tu vois, je me suis régalé. Je connaissais pas la discipline. Et franchement, je me suis bien amusé. Mais ouais, deux, trois dans l'année, ça suffit. Je ferais pas ça quand même toute l'année.
Et changer les pneus, au fait, tu t'es entraîné pour ça ou tu maîtrisais
Et non, ouais, je maîtrisais pas avant de cette
déjà?
année, je maîtrisais pas. Mais bon, j'ai appris et ouais, ça c'est. On est quand même guidé, donc en étant guidé et tout, je me suis quand même débrouillé à faire les pneus.
Ça c'est la bonne surprise quand tu arrives dans une discipline comme ça, tu sais, ce genre de choses.
Ouais, bah surtout ouais, quand t'es jeune et que t'as jamais trop fait ça, j'avais jamais changé de pneu, c'est vrai que c'est pas facile au début.
T'as trouvé des différences de mentalité entre le paddock enduro et le paddock motocross supercross?
Ouais, c'est différent. C'est différent parce que je pense c'est du fait que ben en enduro il n'y a pas de confrontation directe en fait. Du coup on se parle tous, on arrive avant les spéciales ou je sais plus en liaison quoi. Tu vois, on parle, des traces, tout le monde s'entend bien en fait. Dans le paddock, je pense que tout le monde s'entend bien entre les pilotes, alors qu'en cross il peut y avoir un peu plus de friction. Du coup, dû à la course, quoi. Comme il peut y avoir des accrochages, tout ça, on est en confrontation directe. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que c'est pas la même mentalité.
Après, ouais, c'est vrai que de tout temps, on l'a entendu ça, qu'il y avait
Ouais.
une très bonne mentalité en enduro et c'est plus difficile en motocross, mais au final c'est normal, c'est logique, comme tu le dis. On est sur un sport en motocross, supercross, où il y a de l'accrochage, où on part à 30-35 sur une grille et tout le monde veut arriver devant. En enduro, c'est plus détendu, il y a peut-être un peu moins de pression au départ, on risque pas de, de se prendre quelqu'un qui nous met un bloc passe et qu'on n'a pas vu venir. Donc c'est peut-être un petit peu plus logique, c'est comme si en trial, il y avait une mauvaise mentalité. Normalement, on est sur des disciplines où logiquement, il n'y a pas d'accrochage, donc c'est plus facile de bien s'entendre. Quoi.
Ouais, voilà, c'est clair.
J'ai une question à relever, Blaise, mais vas-y, pose la tienne.
Vas-y. Est-ce que ça t'intéresserait justement de refaire des classiques? Comme ça, classique, c'est, je pense, un peu plus détente peut-être, un peu plus que le championnat de France d'enduro. Est-ce que ça t'intéresserait de refaire ça?
Ouais, carrément. J'en ai fait une cette année à la grappe de Cyrano, là. Et ouais, c'est hyper. C'est vraiment sympa de faire une classique. J'avais même dit, quand mon père a déjà fait de la moto, j'ai dit, je te paierai l'engagement l'année prochaine, on le fait ensemble. Et, même s'il n'en fait plus de la moto, mais c'est vrai que c'est accessible pour tous les niveaux. Et c'est sympa, on a des belles liaisons. Tu passes la journée sur la moto, ouais, mais tu te fais plaisir quand même.
Tu as réussi de suite à te mettre dans le rythme enduro. Tu sais, ce rythme où tu as de la spéciale. Il faut te remettre de suite dans le rythme. Enfin, ta liaison spéciale, il faut arriver à être dans le rythme que dans les spéciales, tu vois. Est-ce que tu as réussi, toi, de suite à faire ça?
Ce que j'ai eu du mal à faire, en fait, c'est mémoriser surtout toutes les spéciales. Comme il faut, et à chaque fois j'arrivais le premier jour, je me rappelais pas très très bien des spéciales, et du coup c'est ce qui fait que j'étais un peu forcément en retrait. Et au fil du week-end, ça allait de mieux en mieux, je m'en rapprochais des autres, et souvent le deuxième jour, comme à Saint-Jean-d'Angély où j'ai fait un podium, le deuxième jour ça allait beaucoup beaucoup mieux. Et je pense que c'est dû à la mémorisation de la spéciale, que c'était vraiment compliqué. J'avais vraiment du mal, alors que les enduristes, tu vois, ils te disent la spéciale du départ à l'arrivée, de tête, le caillou, le machin. Et ça, j'avais un peu de mal à retenir.
Ouais, c'est quelque chose qui se travaille. C'est vrai que tous les anciens crossmen, comme Jérémy Taroux, c'est les premières classiques qu'il avait faites. Il s'est dit, non, mais là, je perds trop de temps comparé aux enduristes. Il va falloir que je m'entraîne vraiment à cet aspect révision et apprendre des spéciales. Au final, c'est devenu un spécialiste, mais parce qu'il a beaucoup travaillé ça, quoi.
Ouais, mais ouais, c'est une discipline à part, et c'est sûr que ben, ça se travaille, hein, ça.
On avait une question sur le team. Thomas qui nous dit, est-ce que le team Bud est sympa? Stéphane Dassé, est-il assez sympa ou plutôt attiré par l'argent? Alors, je sais que c'est délicat pour toi de répondre à ça, mais c'est vrai que dans le milieu, Stéphane Dassé, je pense qu'il est apprécié par tout le monde. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour le sport. Dans les paddocks, il est toujours souriant. C'est quelqu'un qui a toujours des analyses et des anecdotes hyper intéressantes. Il prend du temps avec chaque personne. Mais est-ce qu'en tant que patron, il est différent de ce qu'on voit, nous, en tant que fan de moto?
Non, c'est vrai que, comme tu l'as dit, Steph, il est vraiment cool avec moi. Ça s'est hyper bien passé. Tu vois, l'an dernier, j'étais un peu en galère. Je me suis retrouvé sans guidon pour cette année. Et il m'a bien aidé pour cette année. Donc, d'ailleurs, je le remercie. Mais non, avec Bud, franchement, ça se passe hyper bien. Il y a une bonne entente entre les mécanos. Ils sont top. Là, tu vois, on est parti en Australie, on avait une super équipe avec les quatre pilotes, on s'entendait bien, les mécanos, Steph, tout ça. Donc, non, franchement, ça se passe hyper bien avec Bud et même avec Steph aussi. Hein.
Du coup, tu comptes comment ça se passe pour toi? Parce que tu nous as dit que si tu partais aux US, tu restais pas avec Bud aux US, donc ça serait juste une pige pour les US en dehors du team, si probablement, on va dire, t'as un autre team, et quand tu reviens ici, tu récupères ta place chez Bud, c'est ça?
Alors pour l'instant, c'est pas sûr à 100% que je roule dans un autre team.
D'accord.
Mais j'attends encore en fait une proposition là, et ça devrait se faire là d'ici les prochains jours. Et soit je roule dans une équipe pour faire toute la côte ouest, soit je roule avec Bud là-bas, ils ont tout ce qu'il faut, et Steph il m'aiderait quand même bien que je roule Bud ou pas Bud d'ailleurs, pour par exemple le logement là-bas, Après, c'est top aussi parce que là-bas, il a aussi un atelier avec Bud aux USA. Donc, c'est vrai que Steph, il m'aiderait beaucoup à ce niveau-là. Et puis voilà, ouais. Mais pour l'instant, je ne sais pas trop si je roule Bud ou dans une autre équipe. Je le saurai dans les prochains jours.
T'as discuté avec des pilotes qui étaient déjà partis là-bas, comme Soub. Je pense que vous avez eu le temps d'en discuter en partant en Australie. Ça va être quoi le plus gros truc à travailler pour toi en allant là-bas, sachant que les pistes
Thomas
sont quand
Ramette
même
aussi,
différentes.
avec qui j'entends
Ouais,
bien, qui avait fait de
Thomas
belles perfs
Ramette,
là-bas.
évidemment. Ouais.
Ouais, mais c'est sûr que ça fait 2 mois et même depuis que j'ai envie de partir, j'en parle un peu à tous ceux qui sont déjà partis, qui ont un peu d'expérience. Le plus dur, ouais, c'est sûr que les pistes, c'est un peu différent. Les suspensions, tout ça, faut s'adapter, mais bon. Ça se fait, hein, ils l'ont fait, donc pourquoi pas moi. Et après, voilà, il n'y a pas vraiment je sais pas, moi, j'ai pas d'expérience là-bas, donc je vous dirai en rentrant. Mais je verrai bien. Ce qui est un peu compliqué, là, tu vois, c'est de gérer toute la logistique, tout ce qui est assurance, les licences, les engagements, les vols pour aller sur les courses, parce que là, la côte ouest, ça va, il y en a quelques-unes qui sont à côté de là où Bud est basé, par exemple, mais t'en as d'autres courses qui sont aussi à 2 000-3 000 km, donc c'est quand même pas simple à tout gérer si je le fais tout seul, enfin, pour Bud, par exemple. Ouais, c'est la logistique, c'est quand même compliqué à gérer. C'est surtout ça le plus compliqué, je pense, déjà.
Je relève juste une question de Nicolas qui dit, effectivement, je prends le train en route. Il a dit quoi du coup, Nicolas? Ne t'inquiète pas, notre équipe va mettre un podcast d'ici demain. Donc tu l'auras soit sur YouTube en replay, soit sur Facebook en replay, soit en podcast. Ou tu veux te l'écouter tranquille sur la route. Donc tu auras on va dire, tout le
Des
parcours
infos.
d'Anthony qui sera résumé dans le live. Donc ne vous inquiétez pas, le podcast arrive rapidement.
Bon, bah, c'est cool. Merci Anthony d'avoir accepté ce fameux live. C'est vrai qu'on voulait le faire juste après Paris, mais compliqué. Hein. Le Paris, ça s'est terminé dimanche soir. Vous êtes parti lundi matin en Australie, mais vous êtes arrivé réellement mercredi en Australie, c'est ça?
Ouais, c'est ça. On est parti lundi matin. On est arrivé là-bas mercredi avec les heures de vol, plus les escales et tout ça. Ça fait vraiment un long voyage. Et puis là-bas sur place, on n'est pas resté longtemps. On est resté 5-6 jours à peine. Et on est rentré. Là, je suis rentré avant-hier. Donc c'est vrai que c'est un gros, gros voyage pour peu de temps là-bas finalement. Et c'est vrai que, ouais, avec le décalage et tout, tu vois, le décalage. On y était allé l'an passé. J'étais allé avec GSM et j'avais mieux géré peut-être le décalage. Et là, cette année, je l'ai plus subi. Autant arriver là-bas que en rentrant
Ah ouais.
ici.
Ah ouais, tu l'as pris dans les deux sens, du coup, tu
Ouais,
t'es vraiment
dans les deux
décalé,
sens,
quoi.
je suis arrivé là-bas toute la journée. J'étais crevé en pleine nuit. Je me réveillais, pas top. Et là, pareil, je suis un peu crevé aussi. Du coup, je l'avais mieux géré l'an passé et là, cette année, je l'ai un peu plus subi. Mais bon, c'est comme ça, hein. On s'adapte.
Bon, te maintiens éveillé, tu vois, tu pourras nous dire, vu que tu vas gagner ce week-end à Lyon, on aura peut-être une part de. Il y aura une part de MX Réflexion là-dedans, dans cette victoire. Je le
Ouais,
sens venir, ça.
c'est sûr.
Bon, merci beaucoup en tout cas, Anthony. C'était vraiment cool de t'avoir.
Eh bien, merci à vous.
Bonne soirée à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Et bonne dernière course de la saison à SX Tour à toi, Anthony. Et prochain live en direct des US, du coup.
Allez, pourquoi pas? Merci à vous.
Allez,
Parfait,
salut,
bonne
bonne
soirée.
soirée à tous.
Merci,
Allez,
ciao, ciao.
salut.